Matadi sur 102.
116 femmes sont décédées, comme je l'ai dit, dans la province du Bas-Congo depuis le début de cette année et 251 ont trouvé également la mort en 2008 à cause de la consommation des faux médicaments. Constat fait le mercredi dernier par la division provinciale de la santé dans cette province au cours d'une réunion technique. Selon le docteur Denis Lemba, la circulation des faux médicaments, entre autres la quinine en vrac et la métergine, serait à la base de ces décès. Le médecin chargé de la surveillance épidémiologique dans le Bas-Congo demande aux autorités provinciales de prendre des mesures urgentes à cet effet. Dany Kindandita s'est penché sur la question. Dany, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour JR.
Alors, comment on est arrivé à faire ces constats malheureux dans le Bas-Congo?
Oui, j'ai accepté au cours de la réunion technique qui a regroupé le responsable sanitaire à l'inspection provinciale de la santé du Bas-Congo la semaine dernière.
Alors, comment on est parvenu à avoir ces chiffres?
Ces chiffres ont été rendus publics par le médecin chargé des épidémies et catastrophes, le docteur Denis Lemba, qui assume l'intérim du médecin inspecteur provincial. Suivons-le dans cet élément, il brosse ces tableaux tristes.
La mortalité maternelle, décès maternel et mortalité due aux paludisme ont tellement augmenté, nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer à tolérer une situation dans notre province. À la population du Bas-Congo, nous leur demandons de suivre les instructions qui seront données par les autorités politiques, administratives et judiciaires en matière de consommation de médicaments. Nous avons des hôpitaux au niveau des inspections de santé et que les gens se à voir d'abord le médicament avant de l'acheter, il sache qu'il y a des médicaments falsifiés. Une fois qu'il a acheté un médicament, un citoyen doit amener ça auprès de son pharmacien, auprès de son médecin, de son infirmier, qu'on examine d'abord.
Alors, que disent les propriétaires des pharmacies du Bas-Congo à cet appel de l'inspection provinciale?
Ah oui, le vice-président de l'association des propriétaires de pharmacie a souhaité que l'on puisse mettre de l'ordre dans ce domaine. Wabel Lufansoni a précisé que sa structure n'est pas une association technique, c'est un syndicat qui protège les propriétaires aux tracasseries de tout genre. Il a souhaité que le ministère provincial de la Santé puisse donc mettre de l'ordre dans ce secteur, mais sans pourtant faire des propositions concrètes, car ils sont les premiers concernés. Écoutons le vice-président de l'association des propriétaires des pharmacies du Bas-Congo.
Quant à la Profar en soi, ce n'est pas une association technique. Les techniciens, ce sont les pharmaciens et leurs. Dans la Profar, nous savons que c'est une association à caractère syndical pour protéger seulement les pharmacies ou les propriétaires de pharmacie pour toute tracasserie administrative et aussi autre tracasserie. Mais quant à tout ce qui est technique, bon, les pharmaciens sont censés entrer et respecter leurs produits. Donc j'ai restitué auprès de la base et toutes les pharmacies sont au courant, à moins que, bon, peut-être ceux qui ne sont pas arrivés la fois dernière, mais tout le monde est au courant de tous ces médicaments-là, effectivement. Et nous voyons tous ces dangers que nous courons. Et moi, personnellement, tant que président, j'ai proposé au ministère provincial de la Santé de pouvoir faire dénoncer toutes les pharmacies et voir les viables et les moins viables pour qu'on puisse mettre un peu de l'ordre dans ce secteur.
Alors, Dany Kindandita, nous rappelons d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en composant les 081-890-63-94 pour les appels en direct. Et ceux qui aimeraient bien intervenir au travers des SMS, ils doivent composer les 081-070-20-50. Nous poursuivons avec vous, Dany Kindandita. La population est-elle informée de la vente des faux médicaments dans les pharmacies du Bas-Congo?
Ah oui, hier, nous avons posé la même question à la population à travers la province. Des efforts doivent être fournis pour que la population puisse être informée et prendre des dispositions à ce sujet. Quant aux familles qui ont perdu le leur hier, il n'y a aucune disposition prise à ce sujet car ignorant qu'ils sont décédés après avoir consommé des faux médicaments. Suivons tour à tour les impressions de la population.
Kumba munu jisembaki munge vandaka na ndimo Antoine na Matadi bana kutuba ke pareke bakisi ya imbi me bima na ba pharmacie mekana yake clean na ifaleke batu bila beto yao sambe to zabake bakisi yango ni ba pharmacie bagena kutekila yao beso ati wapi place yake ile beto ke sous informé na mambo yenu.
Je suis Jean-Luc depuis Mangamunu. Je pense que la situation des médicaments à barrière vendus sur le marché, c'est une situation qui préoccupe d'accord. C'est suite au niveau de vie très bas de la population. Les gens qui cherchent à trouver des médicaments pour leur santé, le fait d'aller acheter un médicament à bas prix, c'est question de la vie, c'est devenu plus dur, plus difficile. difficile que les gens sont derrière ces médicaments pour qu'ils remis sur le marché, vendus et achetés.
Moi, c'est Chikola Kienga, j'habite Inga. Et en ce qui concerne les faux médicaments, nous ne sommes pas au courant de la circulation de ces produits.
Mon monsieur Jérémy Pobapoba, je suis venu à la Nadibouala à 30, à 40 km de Boma. Je suis venu à la Bakissi à Indi,
de tout
Ben voilà, alors nous avons déjà en ligne Chantal Simbalou-Bazadio, ministre provincial de la Santé. Madame Chantal, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, donc on fait le point avec Dani Kindanzita. On termine juste une dernière question avant de vous accorder la parole. Alors Dani, vous êtes avec nous. Quels sont les efforts consentis par les autorités sanitaires depuis la découverte de la circulation des faux produits dans le Bas-Congo?
Ah oui, JR, nos invités sont mieux placés pour répondre à cette question pertinente. Y a-t-il des responsables des dépôts pharmaceutiques interpellés? Les pharmacies qui vendent ces médicaments ont été sanctionnées? Autant de questions qui restent sans réponse.
Merci, Dani Kindanzita, et bonne semaine.
Merci, JR.
Ben voilà, nous nous tournons du côté de Chantal Simbalou-Bazadio, ministre provincial de la Santé. Aujourd'hui, la situation, elle est quand même très alarmante. 116 femmes décédées suite à la consommation des faux médicaments. 251 ont trouvé également la mort en 2008. On peut dire qu'aujourd'hui, la surveillance du secteur est loin d'être celle vraiment attendue par la population du Bas-Congo, Madame Chantal.
S'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi la question.
Donc j'ai dit, aujourd'hui on parle de 116 femmes qui ont trouvé la mort suite à la consommation des faux médicaments. En 2008, on a enregistré déjà 251. C'est comme pour dire, la situation elle est vraiment très alarmante et que la surveillance du secteur pharmaceutique est loin d'être celle attendue par la population du Bas-Congo.
Oui, depuis un temps il y a eu des rumeurs par rapport aux faux médicaments qui étaient vendus dans des pharmacies. Alors, par rapport à cela, pourquoi il y a des rumeurs? Parce qu'il semblait qu'il y ait des morts suite à la prise de certains médicaments. Ainsi, des enquêtes avec les pharmaciens. Nous avons contrôlé, nous avons envoyé les pharmaciens de faire des procédures au contrôle par rapport aux médicaments qui étaient suspectés. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on a repoussés des dates. C'est-à-dire des médicaments qui sont expirés, mais les inscrits préfèrent donner des dates de péremption qui courent encore. Alors, par rapport à ces phénomènes, nous continuons encore à faire des contrôles parce que ce ne sera pas seulement dans la ville de Matadi, mais nous comptons étendre ces contrôles à travers toute la province.
Oui, Madame Chantal, il y a déjà un rapport très 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 bien élaboré par la division provinciale de la santé qui normalement fait le constat de 116 femmes qui viennent d'être décédées dans la province. Est-ce que vous avez déjà ces rapports?
J'ai tous les rapports. Nous sommes en train de voir. Nous, on a fait notre devoir. Quand nous contrôlons, nous faisons les rapports. Et je crois que il y a lieu aussi la justice puisse faire son travail. C'est-à-dire tous ces gens-là que nous avons trouvés, tous les propriétaires des pharmacies, là où nous avons trouvé des faux médicaments, leurs dossiers sont en train d'être transférés en justice pour défendre pour qu'ils soient jugés selon leurs actes. Alors, c'est ainsi que j'ai dit, nous les gouvernements, nous continuons encore à faire le contrôle pour que nous puissions vraiment mettre la main sur la civique. Qui affiche ce genre de comportement.
Oui, Madame la Ministre, disons, l'idéal pour certains observateurs aurait été de suivre, en tout cas, de bien contrôler la traçabilité de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour le Bas-Congo.
Vous avez raison, la traçabilité, nous avons trois grands dépôts qui desservent la ville de Matadi. Nous avons le dépôt Shalom, le dépôt Shalina, Alisha, et nous avons aussi les ROF. En principe, dans ces dépôts, il y a des mécanismes de contrôle rigoureux. Mais il se fait que nos frontières sont perméables. Il y a certains fournisseurs ambulants qui entrent librement dans les frontières et qui viennent vendre des médicaments qui sont soit expirés, pour lesquels ils ont repoussé des dates, soit des médicaments carrément falsifiés. Alors, c'est là où c'est difficile. c'est difficile parce que dans les grands dépôts, il y a un contrôle. Mais pour les fournisseurs en
bureau,
c'est difficile de les contrôler. Donc, on ne peut pas contrôler dans les bus quand les gens viennent, quittent par exemple Kinshasa. Il n'y a pas de contrôle. Et voilà, les médicaments entrent comme ça. Ce n'est qu'après, quand il y a des problèmes, on se rend compte qu'il y a des faux médicaments. D'où, c'est là où j'ai dit, nous sommes en train de contrôler. Et par rapport à ce contrôle, tous ces vendeurs de médicaments dans les pharmacies, ils doivent nous dire là où ils ont acheté, c'est-à-dire quel fournisseur a fourni ces médicaments. Et c'est par rapport à tout ça que je dis, la justice doit faire son travail.
Oui, mais aussi, certaines personnes vous proposent quand même une approche de ces sensibilisations pour aider la population qui est un tout petit peu ignorante parfois, qui consomme des produits déjà dont la date d'expiration est déjà dépassée.
Par rapport à cet aspect, je crois qu'il y a un communiqué qui passe, que le ministère a signé, où nous sommes en train de sensibiliser la population, d'attirer l'attention de la population à être vigilante. Vous savez, dans notre pays, l'automédication, nous sommes en train de décrier ces phénomènes. Parce que quand les gens sont malades, ils préfèrent aller directement dans les pharmacies pour acheter des médicaments. Mais là, nous sommes en train de sensibiliser la population pour qu'ils veillent. C'est difficile, vous allez me poser la question, mais comment la population va veiller sur des médicaments? Alors que la population est ignorante. Nous avons des pharmaciens, les gens peuvent aller. D'abord, nous conscients, c'est que quand on est malade, de consulter le médecin. Et quand on vous donne une ordonnance pour acheter des médicaments, de veiller sur la date de péremption. Et puis, si vous consultez un pharmacien, qui peut vous dire que les médicaments sont de bonne qualité ou bien ce sont des médicaments falsifiés.
Oui, ben selon nos sources, il s'agit de la quinine et la métergine, deux produits qui sont en tout cas sensiblement consommés.
Effectivement, la quinine en vrac, la quinine 250 mg et 500 mg des marques IDA sont des faux médicaments dans ce sens que IDA d'abord, hein, la IDA injectable, IDA produit des quinines de 600 mg injectables. Heureusement, nous trouvons des quinines de 100 mg, donc c'est faux. Et puis la quinine en vrac, comprimée 250 mg et 500 mg, après avoir testé, ce sont pas la quinine, c'est plutôt les métronidazole. Donc, ce sont des faux.
Et quand on associe à cela la métergine, je me rends compte que c'est juste avec intention de pouvoir avorter, par exemple.
Bon, la métergine, ce n'est pas pour avorter. Ce sont des médicaments qu'on utilise en gynécologie. Mais si, à la place de métergine, un médecin qui prescrit la métergine, mais en lieu de place, ce n'est pas la métergine. Imaginez-vous un peu le dégât. En fait, pour la métergine, c'est plutôt, ils ont falsifié, hein, ils ont falsifié la date.
Oui, ben alors aujourd'hui par rapport à cette situation, c'est vrai que en attendant que la justice ou la police puisse faire son travail, traquer ces vendeurs en bilan, donc ces pharmaciens de fortune qui travaillent, mais est-ce que à votre niveau, vous ne pouvez pas, disons cette situation ne peut pas relancer la question sur l'assainissement du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo et notamment dans le Bas-Congo?
Bon, en matière d'assainissement du secteur des médicaments, nous avons la grande réforme qui s'opère déjà au niveau du secteur de la santé. C'est une réforme qu'on a adoptée, que le ministère de la Santé a adoptée depuis 2006. On dit la réforme du secteur de santé. La mise en œuvre de la stratégie de renforcement des systèmes de santé pose problème parce que, vous savez, toute réforme a besoin d'argent. Aujourd'hui, nous sommes habitués à ces difficultés, mais avec les partenaires, l'appui des partenaires, nous essayons déjà de faire quelque chose dans certains territoires, dans certaines zones de santé. En fait, l'idéal serait que la population puisse, le centre de santé, ou bien les hôpitaux, ou bien mieux encore, la zone de santé, puisse se ravitailler au niveau des centrales. Par exemple, en Matadi, nous avons la centrale, le Kamebo. Et à qui sont que nous avons Kamki. En fait, ce sont des centrales où nous avons des médicaments de première nécessité, de très bonne qualité et bien conditionnés. Malheureusement, ce que nous sommes en train de constater, quand vous achetez, quand les hôpitaux s'approvisionnent au niveau de ces centrales-là, il se pose un problème de prix. Vous savez, ce qui est, la qualité est toujours un peu chère.
Oui, oui.
Alors maintenant, les gouvernements, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons donner des subsides au niveau de ces centrales, ne fût-ce que prendre en charge les coûts de transport pour essayer un peu de réduire les coûts des produits pour donner à la population des produits de bonne qualité et à un prix raisonnable.
Oui, Madame Chantal, en tant que ministre professeur de la Santé, restez en ligne. Nous avons également en ligne David Diangazi, pharmacien inspecteur provincial, pour avoir peut-être des éclaircissements sur certains points. Monsieur David, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quelle est la vraie problématique de la gestion du secteur pharmaceutique dans le Bas-Congo qu'on peut retenir c'est selon vous?
Bon, la problématique, actuellement, comme vous le savez, nous sommes confrontés au problème de la présence, de la circulation des médicaments contrefaits, falsifiés. Donc, s'il faut monter un peu plus haut et monter, aller en amont. Donc, quelque part, nous avons des problèmes avec le contrôle de la qualité des médicaments. Donc, nous avons des problèmes certainement avec les instituts de la pharmacie. Nous avons des problèmes donc entre des prestataires qui n'ont pas l'œil éveillé ouvert ou qui ne sont pas experts ou qualifiés pour poser des actes de prestation dans ce domaine du médicament. Et c'est ce qui justifie qu'on peut trouver à l'approvisionnement, il y a des prestataires non qualifiés qui font circuler des médicaments non conformes à l'usage médical. Dans les officines, il y a des gens qui achètent des médicaments et qui ne peuvent pas déceler qu'ils sont de mauvaise qualité. Bon, c'est ça. Donc, il y a un problème du contrôle de l'exercice de la pharmacie.
Oui.
Des prestataires non qualifiés.
Oui, une petite question de curiosité, monsieur David. Qu'est-ce qui justifierait alors l'inefficacité du contrôle de la traçabilité de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques au Bas-Congo? Est-ce que c'est un problème de moyens, disons, l'inspection provinciale donc, de la pharmacie manque de moyens suffisants pour mener à bien ces contrôles?
Bon, nous ne disons pas une efficacité, parce que c'est le service pharmaceutique de la province qui a identifié la présence de médicaments contrefaits. Il n'y a pas question d'une efficacité. Il y a une certaine efficacité, mais certainement, la véritable problème, c'est-à-dire au niveau de l'efficacité que nous avons, il y a encore un problème d'une maîtrise réelle chez les prestataires. Donc l'autorité de réglementation n'est pas suffisamment affirmée au niveau des prestataires. Les prestataires qui sont sur le terrain, mais même dans les conditions sur le présent, si l'inspection pouvait avoir prise sur eux, on pouvait quand même réduire l'ampleur de ce qu'on voit. Les prestataires qui sont sur le terrain sont généralement des profanes. Ils respectent, ils refusent le contrôle établi par l'État, par les inspecteurs. Ils refusent d'être encadrés sur les plans professionnels par les prestataires compétents qui sont qualifiés à s'occuper des médicaments. Ils ne les engagent pas. Au moment où nous parlons, il y a des assistants pharmaciens ici dans la ville de Matali qui sont au chômage. Il y a des pharmaciens qui sont au chômage. Même quand on leur dit, c'est les exploitants de pharmaciens n'ont que de travailler avec les professionnels. C'est-à-dire la réglementation existe,
oui,
mais elle n'est pas d'application. Et nous avons des difficultés, des contraintes pour pouvoir mettre cette réglementation en application.
Oui,
il y a cela, donc, c'est le plan de l'applicabilité de la réglementation. Il y a un problème, mais ce que vous dites est vrai.
Oui.
Les pharmacies, au niveau des districts, nous avons aussi besoin que l'inspection soit renforcée. Ce renforcement, c'est qu'on ait suffisamment de personnel partout. Il faut qu'on ait des formations appropriées, les différents aspects de la pharmacie. Il faut qu'on ait les moyens de travail davantage. Il est vrai, peut-être maintenant l'inspection pharmaceutique a réussi un certain appui qui nous permet d'être sur le terrain.
Mais monsieur David, mais vous bénéficiez quand même de l'appui du ministère provincial de la Santé.
Mais certainement, nous recevons l'appui du ministère de la Santé. C'est de là que nous recevons les grandes orientations. Nous sommes au service de ce ministère, mais néanmoins, c'est un niveau.
D'accord.
D'encadrement, je peux dire. Moral, d'encadrement stratégique.
Mais voilà, monsieur David. Oui, s'il vous plaît, monsieur David. Oui. Restez un peu en ligne. Nous avons un auditeur qui nous appelle de Kananga, qui aimerait bien réagir. Monsieur Antoine, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Ouais. Bonjour.
Voilà. Monsieur Antoine, vous avez une préoccupation par rapport à ce sujet?
Oui. Ma préoccupation, que c'est par manque de sanctions que cela arrive. Je vous donne un exemple. Au Gabon, on a beaucoup sanctionné les pharmaciens. Il est difficile d'acheter un produit sans ordonnance. Moi, mon épouse était venue là. Elle a fait tout un mois. Malheureusement, elle avait oublié son ordonnance ici. Elle a fait un mois sans trouver des médicaments. Dans toutes les pharmacies, là où il passait, on lui demandait toujours l'ordonnance. Alors, ouais, c'est ce manque de sanctions, n'importe quelle pharmacie. D'ailleurs, ici, chez nous, on trouve n'importe qui peut faire les pharmaciens.
Et chez vous, où, à Kananga?
C'est le problème.
Ben voilà. Alors, monsieur Antoine, merci d'avoir été des nôtres. Nous retournons du côté de Chantal, Simbalo-Banzadio, ministre provincial de la Santé. Madame Chantal, vous êtes encore avec nous?
Oui.
Ben voilà, donc vous avez suivi la réaction de monsieur Antoine. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que vous arrivez quand même à sanctionner ces pharmaciens de fortune?
Le grand problème, ce n'est pas seulement de sanctionner. Aujourd'hui, c'est un problème des textes. Les textes qui réglementent les secteurs pharmaceutiques sont tellement caduques que, comme a dit tout à l'heure là mon pharmacien inspecteur, quand il dit qu'ils ont même des difficultés d'aller faire des contrôles. Pourquoi? Parce que les textes sont tellement caduques, parce que quand ils se rendent dans les pharmacies, pour aller contrôler, il s'ensuit ce qu'on appelle des amendes transactionnelles. Or, jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore la loi de 1933 qui réglemente ces secteurs. En 1933, il y avait d'autres réalités. On n'avait pas des pharmacies que nous trouvons aujourd'hui. Autant dans chaque rue, il y a des pharmacies. Donc, ce qui est d'abord important à notre niveau, c'est que nous puissions demander aux législateurs de réviser un peu cette loi qui est devenue caduque, de nous produire des lois en tenant compte de nos réalités pour que les pharmaciens puissent s'appliquer. Parce que ça, quand ils vont faire leur contrôle, il y a ce qu'on appelle la tracasserie. Parce que aujourd'hui, un pharmacien fait le contrôle. Les pharmacies, les propriétaires des pharmacies n'ont pas, ne sont pas toujours en ordre. Parce qu'il y a tout un critérium pour ouvrir une pharmacie. Or, par rapport à cela, ils ne sont pas. Ce n'est pas seulement ici, dans la ville de Matadi, mais c'est à travers tout le pays. Donc, le grand problème, même on s'actionne aujourd'hui, tant que les textes ne sont pas révisés, ces textes qui sont déjà caduques, on sera toujours dans le même difficulté.
Alors concrètement, madame, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une situation qui est vraiment très alarmante, à croire juste les chiffres qui sont en notre possession. Quelles sont les stratégies que vous prévoyez pour que, à la longue, ces genres de situations ne se répètent, ne se reproduisent plus?
Les stratégies, à mon avis, je peux dire que nous sommes en train de sensibiliser la population. Le monsieur qui a intervenu, il a bien dit, dans d'autres pays, vous ne pouvez pas vous aller dans une pharmacie pour acheter des médicaments. Il faut avoir une ordonnance. Une ordonnance, ce n'est pas n'importe qui l'a fait, c'est le médecin. Nous sommes en train de sensibiliser la population, de revenir un peu à cette culture-là. C'est vrai, il y a un problème de pouvoir d'achat. Quand on est malade, d'aller consulter des médecins. Et le médecin, il va vous orienter. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez dans une pharmacie, vous achetez, vous devez veiller à ce qu'il y ait des médicaments. Vous regardez la date de péremption. Regardez souvent au Congo ici, les gens achètent les médicaments directement, ils commencent à prendre. Sans même faire la moindre fort.
Oui, madame Chantal, madame Chantal, s'il vous plaît, parce que vous êtes très vite très suivi. Nous avons beaucoup de réactions, des auditeurs qui appellent de partout. Et nous rappelons nos numéros d'ailleurs, le 081-070-2050 et le 081-890-63-94 pour les appels en direct. On vous retrouve
ce qui existe, parce qu'elle a fait référence, elle a fait allusion au texte de 1933. Quand vous lisez ce texte de 1933, ce texte ne vise pas que n'importe qui peut ouvrir une pharmacie, une officine pharmaceutique ou un établissement en gros. Et en dehors de ce texte de 1933, il y a également des arrêtés. Et parmi les arrêtés, il y a des arrêtés qui réglementent l'exercice de la pharmacie, donc l'ouverture, qui doit ouvrir et comment ça doit se passer. Donc moi je pense que c'est un problème d'application des textes qui existent. Parce que il s'avère qu'à un moment donné, les pharmaciens inspecteurs peuvent fermer les officines, mais comme ce sont des OPG à compétences restreintes, les documents sont envoyés au parquet et une fois arrivé au parquet, la personne paye des amendes transactionnelles et vous allez constater qu'on va ouvrir les officines. Donc c'est un problème d'application. En principe, les officines qui sont ouvertes sans que ça puisse respecter les textes réglementaires, l'ouverture, qui doit ouvrir et comment ça doit s'ouvrir, en principe, on devait commencer par les fermer. Donc, je m'inscris en faux, qu'on puisse dire que c'est un problème de caducité des textes. Les textes s'avèrent que ça sont des vieux textes, mais ces textes-là réglementent jusqu'à aujourd'hui le secteur.
Donc c'est un problème juste de l'applicabilité.
C'est un problème d'applicabilité des textes. Il appartient maintenant au ministère de la Santé, au service de réglementation qui sont les inspecteurs pharmaceutiques, de faire correctement leur travail, et également au ministère de la Justice de faire son travail, parce qu'en fait les OPG sont là pour rechercher les infractions. Vous sortez même dans la ville de Kinshasa, vous allez trouver qu'il y a plein d'officines, et ces officines-là fonctionnent illégalement. Commençons par appliquer les textes qui existent, au lieu de parler de caducité des textes.
Oui, mais
vous prenez les arrêtés
qui
réglementent,
oui,
ces arrêtés-là donnent comment une officine doit ouvrir et qui doit ouvrir et comment ça doit fonctionner.
Oui, monsieur Sylvain, parce que là, cette loi de 1933 réglemente sur le plan national les secteurs pharmaceutiques. Mais s'il faut aujourd'hui parler de secteur, procéder par secteur, est-ce que cette loi autorise, par exemple, à un secteur de d'appliquer à sa manière avant les autres?
Non, en fait, la loi de 1933, si vous le lisez, il réglemente le secteur et il n'autorise qu'aux pharmaciens d'exercer. Nous ne pouvons pas être en dehors de la mondialisation. Vous pouvez traverser à Brazzaville, ici à quelques mètres. Vous allez dans tout le pays, si on n'est pas pharmacien, on n'ouvre pas. C'est ça le problème. Donc commençons par appliquer le texte qui
existe. Merci Sylvain. Nous rappelons que vous nous appelez de Kinshasa et nous avons Madame Chantal Simba Lubazadio, ministre provincial de la Santé. Comment réagissez-vous, Madame, par rapport aux propos de Sylvain qui nous appelait de Kinshasa?
Merci beaucoup. Je remercie Monsieur Sylvain pour sa contribution. Ce que moi j'ai voulu dire, Monsieur Sylvain, et heureusement que vous l'avez reconnu, les textes sont caducs. Vous parlez d'un point parmi les critériums pour ouvrir, il faut avoir un pharmacien. Et c'est quelque part que M. Sylvain peut me répondre, nous avons combien de pharmaciens dans la province du Bas-Congo, combien à Matadi, il y a une carence de pharmaciens. C'est ainsi que j'ai dit, on doit révisiter les textes et l'adapter à nos réalités. Même si, c'est vrai, il a raison de dire qu'on applique, il y a des difficultés d'appliquer la loi parce qu'il y a une carence de pharmaciens. Imaginez-vous dans des coins de ces pays où il n'y a même pas un pharmacien. Donc cela veut dire que ces coins-là n'auront pas de pharmacie parce qu'il n'y a pas de pharmacien. Donc nous devons nous aussi voir dans quelle mesure on peut tenir compte de certaines réalités. D'où la grande réforme que je vous ai dit, la grande réforme où nous allons même voir par rapport à la production soit de médecins, la production des infirmiers. De plus en plus, les états de lieu prouvent qu'on a moins d'infirmiers par rapport aux normes établies soit par l'OMS. On a moins de pharmaciens plutôt, ils ne sont pas nombreux. Alors quand on va voir ces textes-là qui disent que non, pour ouvrir une pharmacie, il faut avoir un pharmacien, cela dit exactement que dans d'autres coins, il n'y aura pas de pharmacie. D'où, moi, je dis, on doit quand même révisiter. C'est vrai, on doit appliquer les textes, aujourd'hui, ça pose des problèmes, parce qu'à un certain moment, ça ne s'adapte plus aux réalités d'aujourd'hui. Les lois de 1933, on doit les adapter. C'est ainsi que les pharmaciens ont des difficultés de faire leur contrôle, parce que quand on va contrôler, vous devez avoir un pharmacie. Déjà, c'est une infraction. Quand vous n'avez pas, vous avez ouvert une pharmacie sans avoir un pharmacien.
Voilà.
On doit envoyer.
Oui, je crois que M. Sylvain.
Oui, je pharmacien. Est-ce que nous en avons?
Oui, Madame Chantal, je crois que M. Sylvain a trouvé quand même.
Oui, la solution par rapport à ça.
Oui,
un grand point d'interrogation.
Oui, M. Sylvain.
Oui, je suis.
Êtes-vous satisfait quand même, non, de votre...
Non, je ne suis pas satisfait parce qu'en fait, une officine pour la réglementation, elle continue à parler des textes de 1933. Mais il y a des arrêtés de 2002, de 2003 qui réglementent. Une officine doit être ouverte pour autant d'habitants, 10 000 ou je ne sais pas, 15 000 habitants. Et puis l'officine sert les médicaments en privé. Les hôpitaux sont là pour remplir leur rôle. En principe, en dehors des officines, qui sont des officines ouvertes au public, qui doivent servir des médicaments de spécialité, il y a les hôpitaux, il y a les centres de santé, il y a les hôpitaux de référence, et ces hôpitaux-là doivent remplir leur rôle. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en hôpital, vient à l'hôpital, il est consulté, il peut trouver des médicaments essentiels, il est servi, ne peut aller dans une officine que quelqu'un qui a des spécialités. N'importe qui ne doit pas aller à une officine. Je pense que c'est une démission de dire que non, on doit, les textes qui existent nous permettent de mettre de l'ordre. qu'on ne se cache pas derrière la loi de 33. Les textes qui existent aujourd'hui sur la réglementation nous permettent de mettre de l'ordre. Même dans la ville de Matadi, si on regarde bien selon les textes, on ne doit pas avoir 100 officines. On ne peut avoir peut-être qu'une dizaine d'officines qui peuvent être bien achalandées. Et en principe, les hôpitaux doivent jouer leur rôle. Il ne faut pas qu'on jette la balle aux officines.
Donc si je comprends bien,
les hôpitaux doivent jouer leur rôle.
Monsieur Sylvain.
On doit trouver les médicaments dans les hôpitaux, dans les centres de santé. À ce moment-là, on aura résolu le problème.
Oui, mais monsieur Sylvain. Oui, monsieur Sylvain. Si je comprends bien, si je comprends bien votre contribution, monsieur Sylvain.
Au niveau des hôpitaux, est-ce qu'ils ont des médicaments? C'est à ce moment-là qu'il faut, il faut résoudre le problème à partir de la base.
Oui, monsieur Sylvain, si je comprends bien.
S'il ne vient qu'en appoint.
Voilà, si je comprends bien, monsieur Sylvain, là carrément, donc vous proposez, c'est que comme nous avons les dépôts Shalom, les dépôts Rof Shalina, donc les trois grands dépôts qui fonctionnent au niveau du Bas-Congo, que ces grands dépôts puissent orienter les médicaments vers les hôpitaux. Ça pourrait résoudre le problème.
Non seulement les grands dépôts, en fait, les hôpitaux de l'État doivent travailler avec les centrales d'achat.
Oui.
À l'époque, il y avait les DSMP qu'on a supprimés.
Oui, mais les DSMP n'existent plus.
Les centrales d'achat doivent travailler avec les hôpitaux et les hôpitaux doivent disposer de médicaments essentiels.
Voilà, c'est une proposition.
La population, les dépôts pharmaceutiques qui sont des privés, qui peuvent servir les hôpitaux. S'il y a moyen si les hôpitaux peuvent s'approvisionner au cas où ils ne trouvent pas de médicaments au niveau des centrales d'achat, les officines pharmaceutiques qui sont en fait les officines privées ne servent que des spécialités. Et nous sommes dans un pays tellement où il y a la pauvreté, on devait garantir la santé de la population à partir des hôpitaux.
Des hôpitaux.
À partir des médicaments.
Voilà,
on résout le problème au niveau des hôpitaux que de jeter la balle au niveau des officines.
Voilà.
On résout le problème au niveau des hôpitaux avec les médicaments essentiels. Les centrales d'achat, on disponibilise les médicaments, on verra qu'on aura une solution et à ce moment-là,
ça pourrait résoudre le problème facilement.
Va jouer son rôle d'appoint pour servir des
merci. Sociétés. Oui, merci, monsieur Sylvain, d'être, disons, de nous avoir apporté cette contribution. Merci et bonne semaine.
En fait, le problème, ce n'est pas nécessairement pour le Bas-Congo, hein, c'est un problème d'ordre.
C'est un problème national.
Donc, que madame la ministre ne pense pas que c'est seulement au Bas-Congo. C'est un problème d'ordre général et il faudrait qu'au niveau du ministère de la
Santé. Voilà, c'est noté, Sylvain, c'est noté.
Des résolutions qu'il faut pour que cette situation puisse cesser.
Voilà, merci Sylvain et bonne semaine. Nous nous retournons du côté, avant de clore ce sujet, avec madame Chantal Ntimba Lubazadio. En tant que ministre provincial de la Santé, la proposition de monsieur Sylvain, elle est quand même très pertinente. Je crois que l'heure est arrivée pour qu'on puisse vraiment approvisionner nos hôpitaux. Ça pourrait résoudre quand même, tant soit peu, cette difficulté, madame ministre.
Monsieur le journaliste, je pense que vous et monsieur Sylvain, si vous étiez vraiment attentif à ce que j'avais dit l'idéal. J'avais dit cela, que nous puissions renforcer nos centrales.
Tout à fait.
Parce que si nous renforçons, parce que les pommes, c'est quoi aujourd'hui? Les médicaments qui disponibles des centrales coûtent cher par rapport aux médicaments que nous trouvons dans les officines des petites pharmacies.
Mm-hmm.
La population, par rapport à son pouvoir d'achat, va acheter facilement là où c'est moins cher.
Tout à fait.
Parce que là, vous êtes d'accord avec moi.
Oui, tout à fait.
C'est là où j'ai dit l'idéal. On doit savoir ce que nous sommes en train de dire. Je suis entré dans cette parenthèse, le texte, ce n'est pas ce que nous sommes l'objet. De notre intervention.
Mm-hmm.
L'idéal, comme je le dis, c'est que nous puissions renforcer. Je vous ai même dit que le gouvernement provincial du Bas-Congo est en train de voir comment est-ce qu'il peut prendre en compte le transport, parce que le coût des médicaments là, par rapport aux autres, nos centrales sont chères. Donc, ce sont des médicaments de bonne qualité, mais malheureusement, ça coûte un peu cher par rapport aux autres, d'où la population n'a pas accès. L'idéal pour nous, c'est renforcer
les
centrales et les centrales. Les zones de santé, les zones de santé, à ce moment-là, ils vont disposer des médicaments de bonne qualité. Ils vont aussi donner aux hôpitaux, aux centres de santé, ainsi de ça. En fait, c'est ça l'idéal. Mais à côté de ça, il y a un problème. Aujourd'hui, il y a mort d'homme parce qu'il y a des faux médicaments. Faux médicaments, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas au niveau des centrales. Je vous rassure que les centrales, il y a des pharmaciens qui contrôlent. Mais toutes ces pharmacies qui pullulent par-ci, par-là.
Oui, mais les pharmaciens de fortune.
Ils achètent où? Toutes ces pharmacies.
Voilà, donc il faut encore renforcer la surveillance. Madame Chantal, on ne vous prend pas trop votre temps. Nous rappelons que vous êtes ministre provincial de la Santé. Nous disons également merci à David Ndiangazi, pharmacien inspecteur provincial. Merci à vous tous et à très bientôt.
Ouais, bon